France Musique.
France Musique. Muraro au piano.
Chers amis,
Roger Muraro.
Liszt, Fauré, Haydn, Beethoven.
Oui.
Roger.
Oui.
Roger.
Oui.
Roger.
Oui.
Ces émissions que tu fais en tant que pianiste, pianiste virtuose, j'ai l'impression qu'on dit pas assez sur la virtuosité. Finalement, c'est presque comme si c'était un tabou.
Ah bah oui. Ah bah oui. Totalement.
Muraro au piano, Roger Muraro.
Franz Liszt est, j'en conviens, une sorte de fil rouge de toutes mes émissions depuis la première saison. Franz Liszt le généreux, Liszt le virtuose, Liszt l'amoureux, Liszt le transcripteur, Liszt le fidèle défenseur des autres, et surtout, Liszt l'homme de religion. Mon premier souvenir est marqué par l'impression du tout jeune élève que j'étais, à 13-14 ans, quand j'ai entendu derrière la porte d'une salle du conservatoire de Lyon un déchaînement d'octaves sur un passage de Saint François de Paul marchant sur les flots. J'ai toqué à la porte et suis entré sans attendre même le feu vert. Un professeur donnait son cours à une jeune pianiste de haut niveau. J'étais subjugué. Mais pourquoi ? Je n'en sais rien. C'était beau, c'était généreux, plein d'images simples et parlantes. Liszt était le compositeur que je voulais jouer, mais je n'en avais pas encore les moyens. Plus tard, j'ai joué la seconde étude transcendante. Pas la plus séduisante, je dois dire, mais c'était du Liszt. Alors j'étais content. Puis vint ce fameux Saint François de Paul enfin. Ne soyons pas modestes, j'ai eu pas mal de succès avec cette œuvre lors d'une audition concert au conservatoire. Un cap était franchi, je me sentais pianiste, mieux un interprète. Je racontais une histoire, j'étais au-dessus des notes, je marchais sur l'eau, quoi.
Thank you.
Drôle de trait d'union. Liszt a été élève de Czerny. Czerny était élève de Beethoven. Beethoven, élève de Haydn. Et pour clore le chapitre, Fauré est venu lui présenter sa dernière œuvre du moment. Liszt. Tout le monde musical le courtisait. Tout le monde venait rencontrer le virtuose compositeur. Pourquoi Liszt est omniprésent au XIXe siècle? Et c'est quand je pense à sa curiosité et à sa gentillesse, pour ses contemporains bien sûr, que son abnégation m'interroge. Je suis un peu méchant. Allez, si Liszt était le seul à pouvoir jouer ce qu'il écrivait, n'était-ce pas peut-être parce que, au fond, c'était plus facile que de jouer la musique des autres? En arrangeant à sa manière, avec le trésor qu'il avait dans son cœur et ses mains, il a examiné toutes les trouvailles des autres et en a tiré son miel. Dans le portrait de Franz Liszt, il y a l'union scandaleuse de Liszt avec Marie d'Agoult. Quel roman, cette relation avec la comtesse d'Agoult. Un roman animé par les voyages, le rêve. Et pendant ce temps, Liszt s'exerce au piano, développe une écriture novatrice pour traduire une inspiration parfois facile, il faut en convenir, mais toujours sincère. Liszt est avant tout un sentimental profond qu'un tableau, une sculpture ou la lecture d'un poème pouvait émouvoir. Avec Dieu dans tout ça. Après ces quelques mesures des préludes de Liszt d'après Lamartine, je disais que Liszt innovait. À l'époque de l'essor du piano au début du 19e, dans les salons parisiens, Paganini arrive et révèle sa virtuosité. Le diable s'empare de Franz Liszt. Liszt cherche, devient le précurseur d'une technique de piano moderne avec une participation moteur du corps, des épaules et du bras, un rôle actif d'amortisseur du poignet, une utilisation très savante de la pédale. Vous aurez bien sûr reconnu un extrait des 6 études d'après Paganini, l'étude célèbre La Campanella. Liszt inventera le nom et le concept même de récital. Le terme sera d'ailleurs popularisé autour de 1840. Il parcourt l'Europe, joue et séduit tout le monde, les dames se pâment, on lui baise les doigts, il est adulé. Il est en quête d'une félicité par l'amour, une forme de quête mystique idéale que de ravissantes créatures pourraient lui permettre d'assouvir. Enfin, je crois. Et j'aime à penser cela. Sinon, que serait ce type de relation totalement primaire? Rien du tout. Liszt va aimer des femmes de la noblesse, intéressantes à plus d'un titre, des romancières cultivées, belles pour certaines. Et ses nombreuses conquêtes ne feront qu'affirmer le Liszt religieux déjà convaincu. Je crois important de garder cela à l'esprit, même et surtout quand on aborde ces compositions de jeunesse. L'élégance, l'attitude princière, la hauteur du sentiment résident dans chacune des pièces de Franz Liszt. Sans quoi, sa musique, ses études vivement critiquées deviennent anecdotiques. « On ne vient pas au concert entendre des exercices !» hurlera une personne dans le public au moment où Liszt commençait son préludio des études transcendantes. Thank you. Marie Dagout va l'aider. La romancière et critique d'art, au pseudonyme de Daniel Stern, la romancière est cultivée. Elle va parcourir l'Italie avec le jeune Liszt de 22 ans. Ces facettes de la vie et l'œuvre de Liszt me remémorent mon état d'esprit à l'époque du concours international Franz Liszt à Parme en Italie en 1981. Un concours que j'avais eu la chance de gagner. Je m'étais plongé dans la lecture de biographies un peu idéalisées et je me laissais bercer par les événements romancés, le Liszt fougueux adoré, et je l'adorais. Je m'étais laissé pousser une longue et jolie chevelure, aujourd'hui disparue bien entendu. Je m'habillais plus souvent qu'à son tour en une espèce de dandy, oh, pas très raffiné, mais quand même avec un petit nœud sous le col de chemise. Je respirais l'air listien, je m'identifiais au compositeur, mais à la place de carrosses et de montures, j'avais une moto. Et l'un de mes professeurs d'alors, l'inénarrable Yann Richepin, m'avait surpris avec un casque de moto sous le bras. Ni une ni deux. Elle m'avait dit « Tu choisis, c'est moi ou la moto ?» Je prends le ton de sa voix. « Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec un doué qui va se fracasser les mains sur cet engin. » J'ai bien sûr choisi Richepin. Et non sans un petit regret, mon cheval listien resterait désormais à l'écurie. Je devais arrêter de rêver, ma technique de piano n'allait pas, j'étais coincé partout. Alors Liszt a été là pour m'ouvrir les portes du grand piano. Liszt a été et sera autant que possible mon compagnon de route. Là vient la sonate, un extrait, puisque c'était la sonate que je jouais beaucoup à l'époque d'ailleurs. Il faudrait le mettre... L'expo, tu la connais la sonate ? Je t'en prie, n'enregistre pas ça, je suis très mal placé, je ne peux pas les notes. Alors, hein, tu vois ce passage-là ?
Oui, je vois.
Là.
Ok, non.
D'accord ? Reconnu un extrait de la sonate de Liszt. C'est une sonate qui m'a accompagné toute la vie et en tout cas, c'était l'œuvre que je travaillais à l'époque de ma petite aventure avec Eliane Richepin. Très tôt, Liszt enseigne le piano. Sa méthode est concrète, exercice répétitif. Ennuyeux ? Eh bien, lui-même, quand il faisait ses exercices, il lisait son journal en même temps. Oui ? Eh bien, moi aussi, je fais des gammes, des doubles notes, des arpèges, quotidiennement. Si possible, sans trop regarder mon clavier. Mais je n'ai pas le talent de Liszt pour bien lire mon journal en même temps. J'ai cependant essayé. Cela apporte un détachement sûrement bénéfique. Mais il faut un peu trop de patience pour moi. Avec... Non,
non, je te trouve parce que tu es devant un piano, tu parles de gammes d'arpèges.
Ah non, j'ai pas de doigts là. Je suis engourdi, tu vois. J'ai... Surtout... Bon, je fais, puis si ça va, ça va. Ou c'est, hein, bon.
Très tôt, Liszt enseigne le piano. Sa méthode est concrète, exercice répétitif.
Oui, eh bien, moi aussi, je fais des gammes. Des doubles notes. Des arpèges. Et si possible, sans trop regarder mon clavier. Mais je n'ai pas le talent de Liszt pour bien lire mon journal en même temps. J'ai cependant essayé. Cela apporte un détachement, sûrement bénéfique, mais il faut un peu trop de patience pour moi. Avec Liszt, aucune perte de temps. Ses lectures l'informent de tous les potins mondains, comme des événements importants, pendant que le physique s'exerce au piano toutes les épreuves sportives auxquelles il devra faire face. Gamme, arpège en tous les sens, position du bras et du coude assurant une détente maximum. Le doigt a besoin d'être énergique. Pour cela, on le travaille activement, en frappant la touche pendant que les autres restent enfoncés dans le clavier. fameuses octaves de Lis sont travaillées de toutes les façons. Brisées, piquées, les accords répétés, les arpèges, il les arrache avec vigueur sur la dernière note. Il faut libérer la main, les doigts jouant avec une indépendance totale. Le legato, ce qui soutient le passage d'une note à une autre dans une partie chantée, est obtenu par une main libre qui fait sonner les notes sans se cramponner à la touche. Les exercices terminés, il faut lire de la musique, déchiffrer beaucoup. Une élève rapporte.
Il glisse parfois le même doigt d'une note à l'autre et alternativement pique, enlève, détache, lit, selon l'expression requise, et toujours avec abandon, naturel, sans jamais de prétention, de guinder, de crisper. Il ne veut pas qu'on appuie avec l'extrémité du doigt ni sur l'ongle, mais sur la paume du doigt pour obtenir un son plein, rond et non étranglé, mesquin. Il suggère la main morte, une patte molle, même dans les plus grands fortés.
C'est une révolution sonore. Il y a dans cette attitude un peu détachée une forme de sprezzatura, tout aristocratique. Vous savez, j'en avais parlé dans ma séquence Chopin. Chopin également demandait à ses élèves « Jouez facile, facile ». Liszt rencontre la comtesse Marie Dagout à Paris. Relation passionnelle et scandaleuse, les amants doivent fuir. Ils se réfugient en Suisse, puis voyageront en Italie. De cette période naissent trois enfants, Blandine, Cosima et Daniel. Et ce voyage amoureux sera le prétexte à la composition des premières œuvres qui constitueront les années de pèlerinage de Franz Liszt. À l'écoute de la chapelle de Guillaume Tell, qui ouvre le premier cahier de ses années de pèlerinage, esquissé au milieu des années 1830-40, le langage listien est déjà affirmé. Fierté, honneur, religion, hommage au légendaire héros suisse. Dans ce chant épique, on entend déjà le futur Wagner. Liszt nous livre tout un orchestre au piano, notamment les cuivres qui sonnent dans le grave, dans les accords de la fin. Thank you. Bon, je n'avais pas prévu de jouer cette fin aussi longue de cette chapelle de Guillaume Tell qui ouvre le premier livre des années de pèlerinage. Donc on est en Suisse. Le séjour en Suisse est un point culminant de l'union entre Franz et Marie. Liszt y développe son sens de la poésie liée à la nature. Dans ce premier cahier des années de pèlerinage, son ravissant au bord d'une source témoigne d'un modernisme que je n'hésite pas à rapprocher des reflets dans l'eau de Debussy. Je dois dire que cette courte pièce donne beaucoup de fil à retordre. Il faut de la patience pour s'exercer avec la notion de tranquillité que souhaite Liszt. Alors que l'on est sans cesse embarrassé par les déplacements et croisements de mains, un peu comme des gouttelettes qui rebondissent sur les pierres. C'est malcommode, délicat, plein de poésie. Je la tiens pour une des plus séduisantes pages de Liszt, à la fois description et impression de l'eau sur l'âme du compositeur.
C'est dingue parce que tu vois ça là. Mon bras ne se déplace pas à la vitesse où je veux des fois. Des fois, il va plus vite, des fois, il va moins vite. Tu vois Alors, comme je pense à ça, évidemment, je ne pense pas à ça, et c'est là qu'il y a le plus de merde. Bon, allez, je refais. Bon, écoute. Des deux sommets expressifs de ce cahier d'années de pèlerinage, la Suisse, après la vallée d'Obermann, il y a les cloches de Genève. Franz Liszt évoque une atmosphère où règne un parfum d'abandon, un doux balancement, je dirais presque un romantisme mêlé d'érotisme, avec les sons de ces cloches un matin, au réveil peut-être d'une nuit d'amour. Tout est passionné, enrobé de guirlandes suaves à l'italienne, des thèmes empoignants. Avec l'évocation sonore du tintement des cloches, c'est tout un espace qui est suggéré. Au fond, Francis nous fait entendre ce que seront plus tard les cloches chez Debussy dans son étude pour les sonorités opposées. Aussi, par exemple, chez Ravel. Ravel, c'est dans La vallée des cloches, extrait des miroirs. Mais, écoutez, j'ai très envie de jouer ces cloches de Genève.
J'ai peur de... Ça ne te donne pas cette impression, Xavier? J'ai l'impression que je fais des génuflexions partout.
Non, ce n'est pas l'impression que tu donnes.
Mais dans la phrase des cloches de Genève, tu n'as pas une impression que... Oh, bah, hop, il rope, il se met la main sur le cœur tout le temps. Non, ça ne t'a pas donné cette impression-là. Bon, allez, je refais. Thank you.
France Musique, Muraro au piano, Roger Muraro.
L'amour de l'art conduit la vie des deux amants en Italie. Aux côtés de Marie, petit à petit, Liszt affine ses goûts. La lecture de la Divine Comédie de Dante inspirera Liszt pour l'œuvre centrale de son second cahier des années de pèlerinage, après une lecture de Dante, ainsi que sa Dante Symphonie. Le poème de plusieurs centaines de pages de Dante nous décrit la rédemption par l'amour, de l'enfer jusqu'au paradis en passant par le purgatoire. Et c'est à Pise que Liszt aura la révélation de l'enfer avec les fresques sur le jugement dernier, l'enfer et le triomphe de la mort, de Buonamico Cristofano di Buffalmacco, peintre du XIVe siècle. Ces peintures sont une illustration vivante de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Avec Buffalmacco, le jugement dernier ruisselle de sang, le feu dévore les maudits, le sexe féminin crache des flammes et accouche d'un damné. Belzébuth rayonne avec des cornes dissymétriques. Tout est horreur et provoque le soi-disant goût de Liszt pour la laideur. Drôle de réflexion de la part du virtuose qui avoue aimer certains aspects de la laideur. En fait, ne serait-ce pas plutôt le réalisme des images qui le fascine? C'est en tout cas ce que traduisent certaines pages de cette Fantasia quasi una sonata après lecture de Dante. Fantaisie presque comme une sonate. Elle nous raconte l'histoire des damnés et ouvre les portes de la rédemption. Je m'arrête, sciemment. Je ne résiste pas à parler d'un détail, mais qui me met hors de moi. Enfin, vraiment, il m'énerve beaucoup. Combien de fois ce passage-là, j'ai entendu. Je trouve ça particulièrement affreux. Là, ce sol ne peut pas être. Là, sa famille, c'est une note sensible, sa famille. Qui va sur la tonalité de la majeure. La, sa, fa, mi. C'est affreux, vraiment. Et vraiment, je peux vous garantir que j'ai entendu fréquemment par des musiciens de grand nom faire cette faute. Heureusement, j'ai redécouvert l'enregistrement de Lazar Berman, qui en avait donné en son temps une belle version vraiment de ses années de pèlerinage. Et Lazar Berman a bien sûr corrigé naturellement cette faute. L'œuvre, après une lecture de Dante, termine en Ré majeur. Tonalité brillante, glorieuse comme la fin de l'étude symphonique au piano, Mazeppa sur un thème de Victor Hugo. Cette étude, à la fin, affirme la victoire sur une mort qui était pourtant annoncée. Les accords sont magistraux et fiers pour Mazeppa. En revanche, pour Dante, le Ré majeur est beaucoup plus troublant, car l'accord est joué non pas pleinement avec ces trois notes qui constituent l'accord parfait. Liszt enlève la note principale, qui est majeure, quoi, qui donne la couleur lumineuse majeure, pour ne garder que ça. Vous voyez, un accord froid. Un accord vide, et il soutient cet accord de Ré majeur un peu froid par une espèce de trémolo extrêmement menaçant et qui est plutôt semblable à un roulement de timbales, comme si c'était un déchaînement des foudres, des cieux, je ne peux pas vous dire. Vous entendez, c'est pas, on n'est pas dans le Ré majeur de Mazeppa, on est dans le. On est dans une espèce de d'effet terrible de percussion, un tremblement des éléments, je dirais. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre justement cette fin d'après une lecture de Dante, justement dans la version de Bergman, qui vraiment, je dois dire, termine cette œuvre d'une manière très impressionnante.
Alors toi, le fait que Liszt a choisi de terminer sur un accord,
oui,
sur pièce, je ne dis pas que ce bonhomme-là, il peut à un moment ne pas mettre de sensible et mettre un seul bécane.
Ah non, c'est pas possible. J'assume, hein. J'assume. Je fais une petite parenthèse encore là dans l'écriture listienne. Mais c'est une parenthèse que je crois importante. Liszt souligne son texte de nuances et d'indications soutenues, passionnées, qui peuvent conduire trop rapidement un interprète à saturation. Forte, sempre forte, più forte, donc fort, toujours fort, encore plus fort. Souvent, je suis tombé dans l'excès. L'exemple le plus manifeste pour moi est dans le grand thème de la sonate en si mineur, le triomphant double forte, et en plus, il va en crescendo. Vous savez ce thème ? Vous imaginez que si on commence double forte, sans prendre garde à sa puissance. L'arche ne peut pas se dessiner. Le point culminant auquel on doit accéder est totalement englouti dans une masse sonore. Et je crois vraiment, par prudence, qu'il convient de commencer son thème triomphant, sonnant largement, comme il se doit, bien sûr, mais plutôt dans la grandeur plutôt que dans la force. Au fond, dans ce thème, hein, et je parle évidemment de ça plus principalement au pianiste, ce thème, il n'est joué qu'au petit doigt de la main droite, et on a dessous une octave, et puis... six notes d'accord qui viennent le soutenir. Alors donc, il faut bien sûr rétablir l'équilibre. Alors... Et c'est là, sur ce beau « la-la », c'est ici seulement qu'enfin on a le point culminant auquel on peut accorder toute l'attention, à la fois par la force, par l'expression, par l'ampleur. Comment dire, c'est pas l'ampleur, c'est l'amplitude de à la fois du sentiment et l'amplitude sonore. Et là, on a un exemple de la sonate. Je pensais mettre à partir d'ici... La sonate de Liszt, c'est son chef-d'œuvre, il faut bien le dire. Et je suis désolé, mais il faudrait une émission entière pour en parler. Mais tout de même une petite anecdote qui m'a un peu surpris, choqué, je dirais presque. Bon, bien sûr, la sonate a été publiée en 1854. Donc, en plein milieu du 19e, elle était quand même extrêmement, extrêmement moderne. Pour cette époque. Et son chef-d'œuvre, oui, mais au moment de la publication, tout le monde n'était pas de cet avis. L'œuvre est dédiée à Robert Schumann. Robert Schumann, à cette époque, était déjà interné, et c'est sa femme Clara Schumann, donc, qui a reçu la partition, et qui l'entendit pour la première fois, figurez-vous, jouer sous les doigts de Johannes Brahms. On sait que Brahms et Liszt avaient des rapports, respectueux, mais pas plus que ça. Enfin, Liszt était respectueux de Brahms, Brahms l'était beaucoup moins de Liszt. Et voilà quelle fut la réaction de Clara Schumann en entendant cette sonate.
Ce n'est que bruit aveugle. Plus la moindre idée saine. Tout est confus. Impossible de trouver la moindre progression harmonique claire. Et il me faut pourtant leur remercier. C'est vraiment trop affreux.
Bon, on arrêtera là, j'ai fait... Hein.
France Musique.
Le voyage continue.
Muraro au piano.
À Venise, Liszt découvre le Tintoret.
Roger Muraro.
Et nous livre cette réflexion.
Le défaut du Tintoret, c'est l'abus de la force. Fougueuses ébauches. Puissant génie entraîné au-delà de toute limite.
Ces œuvres sont comme une démonstration de plus à la maxime si profondément vraie de La Rochefoucauld. Ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités, il faut en avoir l'économie. Et je crois que par ces mots, c'est toute l'interprétation de la musique de Liszt qui est résumée. Plus il donne, mieux il nous faut le restituer avec l'élégance de ne pas aller trop loin.
Liszt. Il faudrait chanter davantage sur le piano. Si nous entendions chanter un soir, sur une grève déserte, le chant d'un nocturne de Chopin, quelle émotion !
Alors, le poète va guider Franz Liszt. Pétrarque laisse un tel souvenir dans son esprit que le jeune pianiste en détachera trois sonnets adaptés pour chant et piano autour de 1837-1838. Et là, nous écoutons Margaret Price dans le sonnet 104 pour chant et piano.
Due belli occhi che mi guardano, tu mamma,
Mais Franz Liszt en fera une autre version célèbre parmi les plus belles œuvres du second recueil des années de pèlerinage dans le style du nocturne pour piano seul. L'inspiration est contemporaine de la naissance de Cosima, deuxième enfant de l'amour de Marie et Franz. Et Franz se dit « Je les tiens pour singulièrement réussis et plus achevés de forme qu'aucune des choses que j'ai publiées. » Rien dans cette évocation poétique s'éloigne du discours profond des sonnets. La virtuosité est totalement absente, loin du Liszt qui sera la coqueluche de cette époque. Cela suscite une réflexion. Liszt virtuose ? Oui. Mais dans quel but ? Et au fond, que signifie la virtuosité ? Le virtuose n'est-il pas d'abord celui qui donne sans compter ? La virtuosité n'est-elle pas une exaltation ? Liszt souhaitait que les poèmes dont il s'était inspiré soient imprimés avec la musique. Liszt perçoit l'unité et l'universalité de l'art. Toute sa musique sera un trait d'union entre poésie, peinture et sculpture.
Sur la virtuosité.
Oui.
En fait, ces émissions que tu fais, en tant que pianiste, et le pianiste virtuose, finalement, c'est comme si c'était un tabou.
Ah bah oui, totalement. Tu as raison de me signaler ça. C'est drôle d'ailleurs, parce que quand je parle de virtuosité, moi, je l'entends aussi bien dans une phrase jubilatoire chez Mozart, je l'entends aussi bien dans le final d'une sonate de Haydn, je l'entends tout aussi bien même dans Bach et dans ses Goldberg. La virtuosité n'est pas une démonstration. C'est pour moi un état d'exaltation. C'est pour ça que je te pose la question, Liszt virtuose, oui, mais dans quel but ? Quel est son but ? Est-ce que Liszt avait pour but d'être seulement brillant ? Oui, peut-être. Avait-il besoin de gagner de l'argent, de faire d'établir qu'il était le roi du piano ? Peut-être, peut-être. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie pour lui, la virtuosité ? Virtuose, c'est d'abord, à mon avis, celui qui donne, qui se livre sans compter, c'est-à-dire une espèce de générosité, mais totalement gratuite. Enfin, c'est une exaltation, totalement gratuite. Et je réponds. Et j'ai répondu.
Et c'est-à-dire que toi, tu te considères, tu t'es considéré un jour, tu te perçois en tant que virtuose, et est-ce que c'est dans cet acte généreux, ou plutôt dans cet acte de ne pas compter ses efforts que...
Alors, tu me poses une drôle de question, parce que y répondre en disant non, parce que je n'en ai pas les moyens, ce serait aussi me dévaloriser moi-même. Et répondre oui serait me valoriser à outrance. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si je suis au fond de moi-même un virtuose, ce que je crois, ça n'est pas dans le sens de virtuosité comme on a pu l'entendre, et on pourra l'entendre encore en radio, en disque ou en concert, c'est-à-dire ça n'est pas, la virtuosité n'est pas pour moi ce geste qui fait que le concert a été terminé sans une fausse note. J'en ai rien à foutre, pour parler très crûment. En tout cas, la virtuosité, ça n'est pas synonyme de rapidité, ça n'est pas course, ça n'est pas, c'est générosité. Ça, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les partitions de Franz Liszt peuvent conduire à une compréhension au premier degré. Certainement, il aimait à jouer de sa virtuosité élégante, princière, d'acrobatie réalisée l'air de rien. Mais bon, avec quel panache ! Je dois dire, personnellement, n'en ayant pas les moyens, je suis parfois tombé justement dans une vulgarité démonstrative. Regardez ce que je sais faire, qui se résumait à jouer vite et fort, je reviens au propos de tout à l'heure. Ou alors, pire, avec des génuflexions partout dans une phrase. Vous savez, là, on attend le moment où la note devient sensible, et oh, les dames avec leurs éventails s'évanouissent parce que c'est tout. Alors, c'est ridicule. C'est un discours, je dirais, beaucoup trop sucré. On m'avait rappelé à l'ordre. Il ne faut pas se croire arrivé quand on n'est pas parti, m'avait-on dit. J'avais 19 ans. Bon, c'était pardonnable quand même. Mais je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir toujours écouté les conseils d'interprétation du jeune Liszt d'une vingtaine d'années. Alors là, écoutez-le bien. C'est magnifique, je trouve. Liszt nous dit.
ne jouez pas autant. C'est là le difficile, de mettre l'expression à propos et savoir être simple, naïf et toujours naturel. Il faut avoir, pour ainsi dire, de la vérité, de la sincérité dans ses sentiments et ne pas vouloir montrer davantage que l'on sent. La musique est le reflet de l'âme. Il faut que cette âme se révèle dans sa pureté, sans être ternie par l'exagéré et du faux, aucune entrave. Je ne joue pas en mesure. La mesure est dans le sens musical, comme le rythme est dans le vers, et non dans la manière lourde et cadencée dont on pèserait sur la césure. On ne doit pas imprimer à la musique un balancement uniforme, mais l'animer, la ralentir avec esprit selon le sens qu'elle comporte.
Il est vrai, les classiques surannés se rendent avec plus de régularité. Prenez patience avec vous-même. Vous gâtez tout si vous voulez aller trop vite. Mettez tranquillement le pied sur chaque échelon afin de parvenir au sommet. D'ailleurs, il affirmait ne jamais savoir assez bien un morceau pour pouvoir le jouer lentement. Pour illustrer cette dernière phrase, je vous propose d'écouter la fin de la Vallée d'Obermann dans la magnifique version de Claudio Rao.
Thank you.
Mais bon, Liszt est un Hongrois. Les inondations de Pest en 1839 lui rappellent qu'il appartient à cette nation, alors qu'il a été élevé en Hongrie germanophone. Sa langue maternelle est d'ailleurs l'allemand. Son action en faveur des sinistrés lui inspire ses plus belles rhapsodies hongroises, dont l'anecdote nous raconte qu'il montait sur scène en costume hongrois avec le sabre sur le côté pour les jouer. Panache, fierté, très brillant, du rythme, un rythme d'enfer, et des évocations sonores, sombres, macabres parfois, ou légères et argentées comme du cymbalum. C'est un univers sonore qui est vraiment génial à restituer. Cela me rappelle une coutume hongroise qui m'a tant surpris d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois à Budapest et les Hongrois applaudissent très chaleureusement. Et soudainement, plouf, ils s'arrêtent. Alors c'est... et hop, tout le monde frappe lentement et en cadence. Et progressivement, hop, ils accélèrent le tempo, hop, hop, pour recommencer... et hop. Tout le monde s'arrête. Mais alors, je ne sais pas comment ils font pour s'arrêter tous en même temps. Ils reviennent à un rythme lent et scandé qui réaccélère à nouveau. Eh bien, dans certaines rhapsodies hongroises, on entend cette précipitation du thème qui commence tout d'abord tranquillement. Et qui va terminer comme ça à la fin de la pièce. Bon, je ne l'ai pas en doigt, je ne peux pas vous la jouer, c'était un petit exemple comme ça, mais je vous propose de l'écouter, cette 10e rhapsodie en mi majeur de Franz Liszt. La technique pianistique de Liszt ouvre toutes les portes, de Mozart à Messiaen. Liszt m'a sauvé des périodes difficiles qui m'avaient obligé à repenser mon piano. Liszt est une forme de thérapie. Je continue à me guérir de nombreuses tares qui me semblaient insurmontables dans ma jeunesse et je ne saurais trop recommander aux pianistes de travailler les œuvres de Franz Liszt. Elle réconcilie avec soi-même. Pour te dire, c'est avec Liszt que j'ai pu, à plusieurs reprises, faire un réapprentissage du piano. Avec Liszt et Debussy. La première fois à 22 ans, je jouais sans réfléchir, les muscles sont souples et fermes à cet âge, donc on y va comme ça, sans réfléchir aux moyens utilisés. J'avais bien connu quelques incidents, des raideurs, quelques passages difficiles mal réalisés, rien de vraiment très alarmant quand même. Mais les limites étaient atteintes, il fallait repenser à tout ça. Et là, ce fut un trait de génie de la part d'Eliane Richepin avec qui je travaillais à ce moment-là. Au lieu de rabâcher comme un fou des exercices mal fichus, elle m'a donné à travailler l'intégrale des préludes de Debussy. Juste pour obtenir des nuances allant de pianissimo à double forte. Obtenir toute la graduation de ces nuances. Parce que, comme le disait Heinrich Neuhaus, il y a 100 manières de toucher une touche du clavier, justement, pour lui donner 100 couleurs différentes. Alors vous imaginez, en travaillant Debussy, mon rapport au clavier a changé dès ce jour. Le piano n'était plus un cheval qu'il fallait enfourcher, c'était un prolongement de moi. Et je dois dire que, grâce à Debussy, le discours de Franz Liszt a pris une autre envergure. Non, mais c'est, on ne pourrait jamais imaginer ça. Mais la matière, la virtuosité de Franz Liszt est devenue un prolongement de sa pensée. Une générosité sans barrière qui n'avait plus rien d'artificiel en somme. Vous voyez, je reviens même au propos de ce que j'ai dit avant. Drôle que quand même la musique de Debussy m'ait permis de révéler ça. Une autre petite histoire, est-ce qu'elle vaut la peine d'être racontée? En 2012, j'ai eu un stupide accident dans le métro et me voilà avec une fracture de la tête humérale. Bon, une fracture mal ressoudée, un axe du bras légèrement modifié. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais les pianistes pourront imaginer ce que c'était de n'avoir plus de rotation externe et d'être invité à jouer, mais jamais aussi fréquemment, les concertos pour main gauche de Ravel et de Prokofiev. Voilà. Mais Franz Liszt m'a remis sur les rails. Son geste musical et pianistique a été une rééducation. Mon CD Franz Liszt avec la sonate en témoigne. C'était juste un an et demi après mon accident. Alors, je ne suis évidemment pas en train de dire que j'ai fait un bel enregistrement, que ce soit bien clair. Je veux juste dire que j'ai voulu garder un souvenir de son aide, un souvenir de son accompagnement, car Liszt m'a remis en scène. Liszt reste-t-il un défi? Pourquoi pas? Et quel en serait le gain? Étrangement, je n'ai jamais eu l'impression en jouant Liszt et actuellement le grand cycle des années de pèlerinage que j'étais face à un défi. Non, j'effectue un voyage musical de 2h45 environ, porteur d'émotions, grâce à la poétique listienne portée par un naturel du piano inimitable. Ah si, il y en a un autre qui est comparable à Franz Liszt dans sa... pas sa démarche, non, dans son geste au piano. C'est Messiaen. Jamais chez Messiaen vous trouverez un geste antinaturel au piano. Chez ces deux compositeurs, certes, il réside de très grandes difficultés, mais ces difficultés vont toujours dans le sens de la courbe des mouvements, courbe des bras, du soleil qui parcourt un jour, d'une année qui revient au printemps, toutes les courbes, que ce soit une arabesque à la Liszt ou un chant d'oiseau chez Messiaen. Nous écoutions un des solos de l'immense Fauvette des Jardins, œuvre maîtresse de Olivier Messiaen. Au milieu de sa vie, Liszt se consacre plus profondément à la composition d'œuvres à caractère religieux. Wagner entre en scène. Relation indémêlable. On ne sait plus des deux musiciens lequel a le plus influencé l'autre. Liszt sera un soutien sans faille pour Wagner, y compris sur le plan financier. Liszt entretiendra Wagner, Wagner qui lui volera, entre guillemets bien sûr, lui volera sa fille Cosima. Quelle abnégation! Un exemple de pareille générosité à la part de Liszt me laisse admiratif et petit, surtout face à un Wagner qui disait
« Je ne puis m'empêcher de songer que si nous avions la vie, nous n'aurions pas besoin d'art. L'art commence précisément là où cesse la vie. Quand le présent ne nous offre plus rien, nous crions alors par l'œuvre d'art « Je voudrais ». Je ne comprends pas comment un homme vraiment heureux peut avoir l'idée de faire de l'art. Est-ce que l'art n'est pas autre chose que l'aveu de notre impuissance? Pour retrouver ma jeunesse, ma santé, pour jouir de la nature, pour une femme qui m'aimerait sans réserve, pour de beaux enfants, je sacrifierai tout mon art. Prends-le! Donne-moi le reste en échange.
Le fils, évidemment, va combattre ses idées par ses moyens, la foi. Foi, oui, laquelle? Dieu, bien sûr. Je dirais foi en la beauté d'un ordre supérieur. Nous écoutions le Faust de Wagner, une œuvre que je ne connaissais pas du tout, que je trouvais intéressante de programmer ici, après cet échange avec Liszt sur la foi, sur la beauté, sur l'utilité de l'art. Liszt a fait une transcription pour piano de La mort d'Isolde de Wagner. On ne peut pas soupçonner que l'œuvre soit une adaptation de l'orchestre. Le raffinement de l'écriture, les détails des thèmes qui s'entrecroisent, la légèreté des arabesques et la puissance de la fin en font une œuvre pour piano à part entière. C'est vraiment un acte d'amour immense pour les génies de Wagner. J'irais même à dire que Liszt cisèle Wagner pour mieux en révéler les subtilités, la délicatesse de son ornementation. C'est une transcendance plutôt qu'une transcription. D'ailleurs, Franz Liszt aura ses propos prémonitoires au sujet de Tristan et Isolde.
Après une œuvre aussi poignante, je ne sais ce qui restera à faire à nos compositeurs d'opéra. Leur tâche me semble superflue. Et le meilleur conseil à leur donner sera d'étudier les partitions de Wagner avant de se remettre à en écrire eux-mêmes. Et d'assister patiemment aux représentations des Nibelungen à Bayreuth.
Il faudra attendre une vingtaine d'années plus tard avec Debussy pour voir surgir un acte de rébellion à l'emprise de Wagner. Debussy créera son opéra Péléas et Mélisande. Une autre voie hors du chemin wagnérien était donc possible. Wagner meurt d'une crise cardiaque à Venise le 13 février 1883. 15 jours avant son décès, son beau-père Franz Liszt, saisi d'une prémonition poignante, compose ses lugubres gondoles. Quant à Liszt, les excès en tout genre et une sévère pneumonie auront raison de lui en 1886, le lendemain d'ailleurs d'une représentation de Tristan et Isolde. Son inhumation à Bayreuth, à l'ombre de son gendre Wagner, sera ordonnée par Cosima. Et cette décision provoquera de nombreuses contestations de la part de Weimar et des Hongrois. Nous avons entendu la première lugubre gondole dans la version au piano par Alfred Brendel. Cette émission a été enregistrée à la salle Cortot de l'École normale de musique de Paris, que je veux remercier de son accueil, tout comme je remercie Guillaume de Tonquédec pour la lecture des courriers de Franz Liszt. Je salue chaleureusement mes fidèles collaborateurs Xavier Carrère, attaché de production, et Max James à la réalisation, sans oublier l'équipe technique Christian Laudès, Morgane Danon et Sylwen Lynch. Le détail de la programmation musicale est à retrouver sur la page internet des émissions Muraro au piano. Vous pouvez bien sûr réécouter mon liste sur le site de France Musique et l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.